Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat, quel grand défi pour l'Allemagne 20 ans après la chute du mur de Berlin. Les élections générales du 27 septembre prochain, élections essentielles dans un pays fédéral, verront-elles la reconduction de l'actuelle chancelière Angela Merkel? Quelle est aujourd'hui la place de l'Allemagne et quelle tendance en termes de géopolitique se profile? Nous retrouvons nos invités au téléphone depuis Marseille dans le sud de la France, Boris Grésillon, et en studio à Paris, Anne-Marie Le Gloanec, Pierre Verluise et Hans Stark. Hans Stark, vous vouliez revenir sur ce qu'on a abordé en fin de première partie de l'émission sur cette question qui, pour vous, semble essentielle, c'est la question démographique, les problèmes démographiques en Allemagne.
Oui, très rapidement, puisque Boris Grésillon a déjà dit, l'essentiel, mais je pense qu'il faut tenir compte du fait que cette Allemagne-là est vraiment en train de changer massivement, avec une ampleur absolument extraordinaire, du fait du changement démographique. Et quand on a en face un pays qui, en 2050, aura une population qui sera inférieure à celle de la Grande-Bretagne et de la France, et dont les inactifs représentent 50% de la population, parmi les plus âgés et les plus jeunes, qui devront être donc pris en charge par les actifs. Et quand on prend en considération aussi le fait qu'aujourd'hui, un enfant sur trois qui naît en Allemagne est issu de milieux d'immigration, on s'imagine à quel point ce pays est en train de changer, et ses mentalités aussi. Et quand on est dans une telle situation où ce qui prime avant tout, c'est-à-dire la sécurité intérieure, la santé, la situation des hôpitaux, que faire des parents âgés, comment gérer tout cela, on comprend pourquoi les Allemands aujourd'hui n'ont aucune envie de s'engager massivement sur le plan international, notamment en matière de défense. Parce qu'il y a d'autres priorités. Cette Allemagne du début du XXIe siècle est radicalement différente en termes démographiques et donc en termes de mentalité de cette Allemagne dont on parle sans vraiment le dire, c'est-à-dire l'Allemagne de Guillaume II, quand on a en tête, quand on pense à la grande puissance. Et quand on pense à certaines thèses qui sont développées en France sur la puissance allemande et qui sont, de mon point de vue, en raison en grande partie de la démographie, mais aussi de la prise en considération historique. Des foutaises.
Alors, j'aimerais vous m'en donner l'occasion de parler de la question de la réunification allemande dans son contexte européen. Elle a fait peur, cette réunification, il y a 19 ans. Des archives britanniques rendues publiques ces jours-ci font ressortir les interrogations de Margaret Thatcher pour la Grande-Bretagne à l'époque et François Mitterrand pour la France. J'en viens à la question du couple franco-allemand d'aujourd'hui. Est-ce que le mauvais accueil fait par François Mitterrand au moment de la chute du mur de Berlin, pire, le voyage fait à la fin de l'année 89 en République démocratique allemande, alors que cette république était en déconfiture, est-ce que cela a eu un impact sur les difficultés dans la relation entre la France et l'Allemagne, Pierre Verluise?
Il ne faut pas idéaliser les relations franco-allemandes avant la chute du mur. Il y avait déjà des ambiguïtés, premièrement, mais il est vrai que la chute du mur a rajouté quelques délicatesses, on va dire, puisque pour des raisons personnelles ou historiques, faciles à comprendre, parce que je pense que beaucoup de Français ont partagé ces hésitations. François Mitterrand et son entourage, les diplomates français, ont donné l'impression d'être un peu debout sur les freins au moment de la fin de l'année 1989 et de faire des propositions ou des projets qui ont peut-être été mal interprétés en Allemagne. Donc, il est vrai que la chute du mur a été plutôt un moment difficile. Et par la suite, il y a eu d'autres dossiers difficiles sur la question de l'élargissement de l'Union européenne qui, pour l'Allemagne, ne faisait pas débat pour des raisons qu'on pourrait expliquer. La France, là encore, a donné l'impression d'être debout sur les freins. Ce qui explique que les relations soient complexes. Alors, au moment de 89-90, les Allemands n'ont rien dit publiquement parce qu'ils avaient une priorité, c'était la réunification de l'Allemagne et l'élargissement plus tard de l'Union européenne. Mais on voit bien que par la suite, un certain nombre de difficultés ont été remises sur la place publique. La façon dont Mme Merkel a recadré ce qui s'appelait à l'origine l'Union méditerranéenne pour devenir l'Union pour la Méditerranée en le réinsérant dans un cadre communautaire, c'était une leçon de savoir-vivre.
Anne-Marie Le Gloanec.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les Français suivaient François Mitterrand dans ses hésitations. Justement, il y a eu... Alors, la presse, l'opinion publiée, notamment les journalistes d'une génération plus âgée, étaient extrêmement réticents. Mais les plus jeunes, et dans l'opinion publique d'une façon générale, il y a eu un écho extrêmement positif. Mmh. Rappelez-vous l'émotion, les larmes de joie, etc. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que dans les cause de froissement, je voudrais souligner une erreur fondamentale qui a été faite, qui a été que la France, le gouvernement français, François Mitterrand, a raté le train de l'union politique européenne à Maastricht. C'est-à-dire qu'on a fait l'union économique et monétaire, on a fait une espèce d'appendice ou de succès d'année qui a été la politique étrangère européenne. Mais cette fédéralisation que voulait le chancelier Kohl, Mitterrand l'a pas du tout épousé. Je crois que là, on a raté une occasion extraordinaire et maintenant, c'est terminé.
Vous partagez, Boris Grésillon ?
Mitterrand n'était pas le seul à être réticent.
Il y avait Margaret Thatcher, comme on l'a dit.
Les Britanniques n'en auraient jamais voulu.
Hans Stark.
Il y avait dans l'opposition de la part de Mitterrand, il y avait des phases. Et ça, c'est très intéressant. Il y avait une vraie phase d'hostilité en novembre et décembre, qui était largement due au fait que Mitterrand avait son propre agenda. Et cet agenda, c'était la monnaie unique. On l'a mise en route en 1988. Pourquoi ? Parce que la France a été écrasée par l'économie allemande du fait de la prédominance du Deutschmark pendant les années 70 et 80. Et toute la politique d'austérité mise en place par Mitterrand en 1983 tenait comme un fil, c'est-à-dire le fil, c'était le lien entre le franc et le Deutschmark. Et il sentait à quel point c'était une vraie faiblesse structurelle de l'économie française et à quel point il était dépendant du bon vouloir de la Bundesbank. Et donc il a mis en route ce projet de monnaie unique et Kohl n'en voulait pas vraiment. Mais Kohl a finalement accepté en 88, début 89. Et lorsque tombe le mur de Berlin, Mitterrand a l'impression que maintenant, Kohl, il a d'autres priorités et il dira non français du fait de la légitimité politique historique et la sienne à la tête d'un pays qui est en train de s'unifier. Donc il avait une peur bleue que les Allemands se désengagent de la construction européenne, notamment sur le plan monétaire. Et donc il coince Kohl en décembre 1989 au sommet de Strasbourg, où il donnera son accord et encore du bout des lèvres au rapprochement entre les deux Allemagnes, uniquement si les Allemands acceptent d'ouvrir des négociations, la faire maintenant en vue de la monnaie unique, ce que Kohl devra faire, contraint et forcé. À partir donc de la mi-décembre, déjà nous avons un Mitterrand moins hostile à l'égard de l'unité, moins hostile à l'égard donc du rapprochement entre les deux Allemagnes, mais il reste quand même sur la défensive en raison d'un deuxième point que nous avons en janvier-février, c'est-à-dire la question de la frontière allemande et notamment de la question de la frontière entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Et lorsque il est vrai, Kohl tergiverse sur ce point pour des raisons essentiellement électorales, parce qu'il a des élections en 1990 qui l'attendent et qu'il veut l'emporter, une deuxième fois Mitterrand se rebiffe et se montre dur à l'égard de cette Allemagne critique. Et là encore, Kohl cède, donc pour la deuxième fois, cette fois-ci en février 1990, il cède sur un deuxième point qui est la question des frontières. Là maintenant, pour Mitterrand, tout est réglé. L'engagement européen de l'Allemagne, c'est clair, ils ont dit oui à la monnaie unique. C'est donc Maastricht. Et les frontières, on n'y touche pas. Ça, c'était la deuxième condition. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir donc de début mars, la France joue à fond le jeu de l'unification allemande et ne s'y oppose plus. Donc on ne peut pas dire, Thatcher, c'était différent. Thatcher n'en voulait pas. Elle n'aimait pas Kohl. Ça se montre clairement. Et elle se méfiait des Allemands. La France, c'était pas pareil.
Le rôle changé du franco-allemand qu'évoquait Anne-Marie Le Glohanec à l'instant, est-ce que ce couple franco-allemand qui avait toute son utilité, sa raison d'être au lendemain de la guerre, est-ce qu'il a aujourd'hui complètement perdu sa force d'impulsion en Europe ?
Je crois qu'il a perdu sa force d'impulsion. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est l'élargissement. On est plus de joueurs. C'est beaucoup plus difficile de les entraîner tous, d'entraîner 25 pays à deux que d'en entraîner 7 ou 10 ou même encore 13. Quand on était 15 dans l'Union européenne, c'était encore gérable ce tandem franco-allemand. Donc ça, c'est un calcul mathématique. Le deuxième, c'est qu'on est dans un climat intellectuel totalement différent. C'est-à-dire que chacun, quand même, a tendance à jouer pour soi, que ce soit les différents pays européens, les Français, les Allemands, tout le monde joue plus ou moins pour soi. Et les projets réellement positifs franco-allemands n'existent pas. Il y a eu un grand vide franco-allemand, disons de 95-97 à 2002-2003. Ensuite, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont donné l'impression de redonner du souffle, mais qui était souvent beaucoup plus négatif que positif, c'est-à-dire que chacun soutenait les projets nationaux et anti-européens de l'autre. C'était une espèce d'arrangement, de coopérative franco-allemande sur le dos des autres, dirais-je pour faire bref. Il y a eu eu certes l'opposition à la guerre contre l'Irak, mais qui a été aussi mal ficelée, à mon avis, tout en étant justifiée sur le fond. Et puis, le duo Merkel-Sarkozy, c'est un peu pareil. On ne voit pas de grand souffle si on prend certains dossiers de politique étrangère, comme la Turquie. Ou
sur laquelle ils sont d'accord quant au nom de la Turquie au sein de l'Union européenne.
Voilà, ils sont d'accord sur le nom, mais qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Quelle est la vision réelle de l'Union européenne derrière ça? Je dirais le point peut-être le plus concret, c'est l'entente sur la régulation en matière financière, mais on ne sent pas véritablement de grand souffle. Alors ça ne veut pas dire que le franco-allemand ne soit pas nécessaire, il n'est plus suffisant, mais il serait peut-être toujours nécessaire pour donner une impulsion à l'Europe, mais on ne voit pas pour l'instant quel est le grand projet ou quel est le grand souffle ou quelle est la volonté européenne derrière ça. L'Allemagne, plus que jamais, joue pour elle-même, la France également, à quelques rares exceptions.
Alors chacun joue pour soi. Est-ce pour cela, Pierre Verluisse, que la Russie joue un rôle majeur dans la réflexion stratégique de l'Allemagne?
L'Allemagne et la Russie, c'est une vieille histoire. Et pour l'Allemagne réunifiée, la relation avec la Russie, c'est une relation stratégique prioritaire qui doit, quoi qu'il arrive, se développer. Ce qui peut parfois expliquer des tensions, des contradictions, des maladresses peut-être, avec d'autres États membres de l'Union européenne qui, eux, ont une autre histoire et un certain nombre de cicatrices.
Vous pensez à la Pologne, à la République tchèque, entre autres.
On peut penser à la République tchèque, à la Pologne. En 2005, chacun se souvient que l'Allemagne a donné l'impression de passer au-dessus de la tête des autres États membres pour mettre en place le projet Nord Stream, qui est un projet de gazoduc à travers la mer Baltique qui contourne l'Europe centrale et orientale pour être directement sous perfusion du gaz russe, dont l'Allemagne est un grand consommateur. Ça se comprend dans le cadre de ses intérêts. En revanche, ça pose des difficultés à l'échelle communautaire. Il manque aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, alors que l'Allemagne, par ailleurs, a une vraie culture géopolitique, il manque quand même, à l'échelle de l'Union européenne élargie, une approche communautaire qui soit géopolitique de ce que c'est que l'Union européenne et de ses relations avec le reste du monde. C'est en train de basculer sous nos yeux ces derniers temps, je pense, mais il aura fallu attendre un certain temps.
Vous partagez, Boris Grésillon?
Complètement. Le constat est d'ailleurs assez cruel. Hein. Je le partage complètement. C'est assez cruel à la fois pour le franco-allemand et c'est assez cruel aussi pour l'Europe. Parce que quand même, il serait temps que l'Europe se dote effectivement d'une vision de son espace, ce qu'elle n'a pas, et d'une vision de sa géostratégie. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et en fonction de cette vacuité, si j'ose dire, eh bien les vieux réflexes nationaux ressurgissent. Entendons-nous bien, par nationaux, je n'entends pas du tout nationalistes. Hein. Mais quand même, on se rend compte que bah, finalement, le franco-allemand d'hier est sérieusement concurrencé sur le plan économique par, bah, par exemple, la France qui cherche à quand même, ce qui a cherché du moins à se tailler son précaré vers la Méditerranée du Sud. L'Allemagne qui effectivement se tourne vers son voisin russe. Alors, attention, les choses sont complexes, ça ne veut pas dire que l'Allemagne tourne le dos franco-allemand, pas du tout. Ça veut dire simplement que l'Allemagne diversifie ses relations. Et j'ajoute à l'exemple qu'a pris Pierre Verluy sur Gazprom, l'affaire Rosatom, c'est quand même pas rien non plus. Hein. C'est-à-dire que l'Allemagne a noué un accord de partenariat Siemens avec Rosatom pour la construction de centrales nucléaires civiles en Asie centrale. C'est une très grosse affaire. Là, pour le coup, tournant le dos, un partenariat qui existait déjà entre Siemens et Areva. Donc les choses sont complexes et il me semble que l'Europe manque cruellement d'une vision politique, tout simplement, à l'heure où, pour ne pas le citer, M. Obama, y compris en Europe, a l'air de développer justement des visions, des stratégies tout à fait intéressantes.
Anstar.
Oui, enfin, Siemens n'est pas une entreprise nationalisée ou nationale, donc c'est Siemens qui a pris cette décision, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui a poussé Siemens dans les bras des Russes. Il ne faut pas oublier, nous avons une culture économique en Allemagne qui est quand même très largement encore dictée par les règles du libre-marché, et c'est la raison pour laquelle Siemens a finalement préféré se désengager d'Areva, où elle a joué un rôle de junior partner qui n'était pas dans son intérêt. Là s'ajoute aussi le fait que dans le nucléaire, les Français sont très dominants, les Allemands dans une mauvaise situation en raison de la décision de sortir du nucléaire. Et à long terme, la position de Siemens vis-à-vis d'Areva ne se serait jamais améliorée. Donc je ne dis pas ça pour défendre qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'est un simple fait que Siemens prend ses décisions quand même encore assez largement autonomes. Anne-Marie voudrait...
Anne-Marie de Glouanec.
Juste un point là-dessus, je dirais... Je serais serait plus cruel que Hans Stark, je dirais, les Français ont poussé les Siemens dans le bras de Rosatom.
Tout à fait.
Largement.
Tout à fait. Bon. Mais bon, c'est un autre chapitre. Pour aller plus loin, je pense que la relation germano-russe, à mes yeux, n'a absolument rien d'inquiétant. Et je ne dis pas ça pour faire ici la langue de bois ou la propagande pro-allemande. Il y a un projet allemand qui consiste à arrimer la Russie à l'ensemble européen. Dans une logique qui est une logique qui existe, donc je suis personnellement beaucoup moins critique à l'égard de la politique étrangère de sécurité de l'Union européenne qui existe depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années seulement, et sur le plan militaire depuis à peine 10 ans. Donc c'est encore quelque chose d'assez jeune, qui est né dans l'ombre de la relation transatlantique, et mais qui consiste aujourd'hui à envisager le grand espace européen et les relations avec la Méditerranée et donc l'espace de la CEI à travers la politique européenne de voisinage à des degrés très différents. Il y a les Balkans qui ne rentrent pas vraiment là-dedans, mais parce qu'ils ont une perspective d'adhésion à l'Union européenne. La Russie, parce qu'elle ne veut pas être sur le même pied que l'Ukraine ou la Moldavie, mais malgré tout, il y a quand même une ligne très claire. On veut arrimer ces pays à l'ensemble de l'Union européenne, et en particulier la Russie. Pourquoi ? Bien sûr, parce qu'elle a des choses à vendre qui nous intéressent, notamment les hydrocarbures, ça c'est évident, mais surtout parce que les Allemands estiment, et ça c'est la logique de l'Ostpolitik, qu'il faut créer des interdépendances. C'est-à-dire, bien sûr, les Allemands sont dépendants des Russes, mais les Russes le sont autant des Allemands. Et donc, à travers cette interdépendance, nous avons un moyen d'éviter les clivages, les tensions, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher de tout risquer pour la Géorgie. Ça ne vaut pas la peine, ni du point de vue occidental, ni du point de vue de la Russie. Et donc, plus qu'on a des interdépendances dans le domaine économique et commercial, plus les rapports politiques vont s'améliorer entre l'ensemble européen et la Russie, en tout cas, c'est ce que j'appelle les Allemands, et à terme aussi, la Russie changera du point de vue de la politique intérieure. Et il vaut mieux avoir une Russie qui joue le jeu économique avec l'Union européenne qu'une Russie qui se tourne vers la Chine.
Boris Grésillon ?
Oui, juste une petite nuance au propos d'Hans Stark, tout en disant qu'il a tout à fait raison, me semble-t-il, de rappeler que l'axe germano-russe n'est absolument
pas d'axe.
Justement, c'est pas un axe. Non, mais j'ai fait exprès. C'était ironique. Ne vous inquiétez pas. Mais justement, ce n'est absolument pas une menace pour l'Union européenne et ni même pour le franco-allemand. Simplement, si on se place cette fois-ci du point de vue des Russes, la Russie cherche à redevenir une grande puissance. Elle ne se contentera jamais d'un strapontin au titre de membre de la politique de voisinage, de même qu'elle ne se contentera jamais d'être officiellement un partenaire privilégié de l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut faire très attention. On parle quand même en termes de rapport de force. Les rapprochements économiques existent et ils sont très importants. Et effectivement, ils peuvent peut-être changer les choses à la marge sur le plan politique, mais jusqu'à preuve du contraire, la Russie cherche à tout craint à revendiquer son statut de peut-être ancienne nouvelle grande puissance, et ça risque quand même de poser quelques problèmes à l'Union européenne.
Anne-Marie Le Gleuenec.
Sur le plan politique.
Oui, en allant dans le sens de Boris Grésillon, deux choses. La première, c'est que c'est pas seulement l'Allemagne, mais c'est la France et l'Italie notamment qui ont des relations économiques extrêmement importantes. Et Hans Stark a raison de souligner la démarche intellectuelle qui est derrière ça et qui est héritée de l'Ostpolitik. C'est l'Ostpolitik numéro 2, version 2, telle qu'elle a été conçue notamment par la présidence allemande de l'Union européenne. Mais là où le bât blesse, et là je suis plus Boris Grésillon, c'est là, étant donné qu'on joue, nous, Européens, en rang désordonné, et étant donné que le gouvernement russe a beaucoup de cartes en main et pèse sur ses entreprises et définit la politique, il y a une grande manipulation de la part du gouvernement russe, et donc on voit au fond des relations économiques et commerciales qui servent sur le plan géopolitique, sur le plan politique, probablement plus la Russie que l'Union Européenne, et je pense en particulier à la question énergétique qu'on a évoquée tout à l'heure. Je veux dire, on a énormément de difficultés, pas seulement à cause de la Russie, mais on a énormément de difficultés à mettre sur pied une politique énergétique commune, pendant que le gouvernement russe et ses entreprises avancent ses pions au sud, au nord et au centre de l'Europe.
Alors, pour parler d'un sujet d'actualité, le bouclier antimissile, l'abandon par les Américains de ce projet de bouclier en Pologne et en République tchèque, est-ce qu'on peut dire, Pierre Verlus, que finalement la Russie, sur cette question qui concerne les Européens, a gagné ?
On ne peut peut-être pas aller aussi loin, mais il est certain qu'en tout cas, en Europe centrale, ça va être vécu comme une redistribution des rapports de force, peut-être un peu comme un abandon. Et pour être à la fois dans le fil de votre question et de ce qui vient d'être dit précédemment, je ne saurais trop conseiller. Si on veut savoir comment les pays d'Europe centrale et orientale voient les relations avec la Russie, de lire un ouvrage qui présente d'une certaine manière la vision polonaise d'Alexandra Viato, qui s'appelle « Pologne entre Est et Ouest » aux éditions Aura Decima, Alexandra Viato. C'est un ouvrage qui montre comment les Polonais voient, à tort ou à raison, c'est un autre débat, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont dans la tête, voient les relations entre Paris, Berlin et Moscou, pour dire les choses autrement, et comment un certain nombre de points d'accord peuvent générer des peurs. Et ces peurs, il faut bien les intégrer pour mieux les surmonter, bien évidemment, dans l'intérêt général.
Une dernière question sur laquelle je vais vous demander à tous de répondre. Quelles sont finalement aujourd'hui les prétentions de l'Allemagne en termes de géopolitique européenne et mondiale, Grésillon ?
Pour résumer ma pensée, je dirais que, je précise quand même, je ne suis pas spécialiste des relations internationales, mais je connais assez bien l'Allemagne. Il me semble que l'Allemagne d'aujourd'hui reste un pays modeste. Sur le plan diplomatique, entendons-nous bien, c'est un pays extrêmement compétent et qui avance ses pions sur le plan économique, qui reste, me semble-t-il, relativement modeste sur le plan diplomatique, qui revendique, comme le Japon, depuis des décennies, un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle n'a toujours pas obtenu, et qui, du coup, compense les déficits de sa diplomatie politique par une espèce de diplomatie que je qualifierais de scientifique et de recherche et d'innovation, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très importante, où là, l'Allemagne avance des pions de manière extrêmement rapide, notamment en direction des pays émergents, en direction de la Chine, en direction de l'Inde, en direction de la Russie. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne ou les entreprises, peu importe à ce niveau-là, mais nous, des accords de partenariat scientifique très importants, avec des partenaires industriels ou scientifiques indiens et chinois. Et sur ce plan-là, on peut dire que la diplomatie, qu'on peut qualifier de commerciale et scientifique allemande, est très efficace et d'une certaine manière, elle compense les limites de la diplomatie politique.
Hans Stark, vous partagez ?
Oui, parfaitement. J'irais peut-être un tout petit peu plus loin encore en disant que les Allemands ont laissé derrière eux une certaine culture de la retenue, une certaine culture de la modestie. Et la façon avec laquelle ils ont géré la suprématie politique de la France dans l'ensemble communautaire. C'est-à-dire, ils n'aspirent pas à jouer le rôle du premier violoniste d'un orchestre, ça non. Mm-hmm. En revanche, ils ne veulent pas être non plus au second rang du point de vue politique et estiment qu'il y a aujourd'hui dans l'Union européenne trois grands, qui sont la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et qui, à des degrés divers et à des moments différents, peuvent prendre des initiatives et doivent s'impliquer. Et c'est la raison pour laquelle, et ça je souligne ce que vient de dire Boris Grésillon, les Allemands utilisent leur présence commerciale extra-européenne pour rappeler qu'ils ont aussi leur mot à dire dans un certain nombre de dossiers, qu'il s'agisse de la paix dans le Caucase, au Proche Moyen-Orient. Madame Merkel est très active, très présente au Proche-Orient. Joschka Fischer l'a également été. Le président Köhler se rend très souvent en Afrique. L'Afrique, il y a un dialogue politique avec différents pays africains, ce qu'on n'a pas eu dans le passé. Et nous avons donc aussi le dialogue avec les Russes et les Chinois, où se pose la question en Allemagne, à tel point faut-il souligner l'importance, par exemple, des droits de l'homme et donc de la démocratisation. Donc, nous avons une Allemagne qui veut jouer un rôle sur le plan international parce qu'elle estime qu'elle ne peut pas aspirer à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité s'il n'y a pas derrière aussi une présence politique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va dominer.
Pierre Verluise.
Il me semble que si on s'interroge sur les priorités de l'Allemagne, l'une de ses priorités, en tout cas, c'est la relation avec la Russie. Pour les officiers allemands avec qui j'en ai parlé, ça n'est pas discutable sur le plan stratégique. Et la question, c'est comment est-ce que cette priorité va se négocier avec les autres pays membres de l'Union européenne ?
Anne-Marie Le Glonec.
Moi, je soulignerais un autre aspect, sans être du tout en désaccord avec ce qui a été dit. L'autre aspect, c'est le leadership par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, la République fédérale est si importante en Europe du fait de son poids économique, du fait de sa situation au cœur de l'Europe et de ses relations avec les différents États, du fait des flux multiples et variés qu'il y a entre l'Allemagne et les autres pays. Quoi qu'elle fasse, qu'elle ne fasse rien ou qu'elle fasse quelque chose, elle exerce nécessairement une influence sur le reste de l'Europe. Ce que n'ont pas tous les autres pays européens. Et pas même la France.
C'est la fin de Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à l'Allemagne, à une semaine des élections générales du 27 septembre prochain. Merci à nos invités, Anne-Marie Le Glohanec, spécialiste de l'Allemagne, professeur à Sciences Po, auteur de Berlin et le Monde aux éditions Autrement, Pierre Verluise, auteur de 20 ans après la chute du mur, l'Europe recomposée aux éditions Choiseul et Géopolitique de l'Europe aux éditions CEDES, Hans Stark, co-directeur de l'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur de Berlin aux éditions Septentrion, et Boris Grésillon, auteur de l'Allemagne 20 ans après à la documentation française. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à Camille Deloche, à la documentation du RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation, à Joël Hermand pour la technique. La semaine prochaine, Géopolitique sera consacrée à l'organisation Al-Qaïda. À très bientôt.
Cette émission vous a été proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.